le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies dont voici les titres. La brigade d'intervention de la MONUSCO déjà en action à Goma et ses environs. Des patrouilles de nuit et de jour sont déjà organisées d'après le porte-parole militaire de la MONUSCO. Environ 1 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année alors que plus de 800 millions de personnes restent sous-alimentées dans le monde. Comment comprendre ce paradoxe? C'est notamment l'une des questions auxquelles répondra notre invité du jour. Pour la rubrique décryptage d'aujourd'hui, nous allons parler du PTM, projet de transport multimodal, un projet financé entièrement par la Banque mondiale qui sera au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer du Congo.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à tous. La brigade d'intervention de la MONUSCO est entrée en action avec des patrouilles menées en début de semaine dans la ville de Goma au nord Kivu. C'est le porte-parole militaire de la MONUSCO qui l'a déclaré lors de la conférence hebdomadaire mercredi dernier à Kinshasa. Le colonel Félix Bassé a par ailleurs souligné que le processus d'installation et de familiarisation de la brigade sur le terrain se poursuit normalement et que les contingents malawites sont attendus dans quelques semaines. Dites-nous en plus, Jean-Pierre Elali Koko.
Environ 870 soldats sur les 3000 qui doivent composer la brigade d'intervention ont commencé à opérer sur le terrain, en s'intégrant dans des patrouilles organisées par la MONUSCO dans et autour des Goma. Et pour le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, la brigade poursuit normalement son processus d'installation.
Effectivement, le déploiement de la brigade d'intervention se poursuit de manière régulière et aujourd'hui nous avons un nombre assez important de troupes particulièrement tanzaniennes qui sont déjà sur le terrain, plus un effectif aussi des troupes sud-africaines qui sont déjà déployées sur le terrain, mais la brigade poursuit le processus d'abord d'installation. Ensuite, le processus de familiarisation avec son environnement, c'est dans ce cadre d'ailleurs que certaines unités de la brigade d'intervention ont été insérées dans les patrouilles qui sont menées dans et autour de la ville de Goma.
Alors, quel sera le comportement de cette brigade en cas d'embuscade ou d'attaque lors de ces patrouilles? Va-t-elle faire usage de la force ou se limiter à la mission traditionnelle de protection des populations assignées au casque bleu? Écoutez la réponse du colonel Bassé.
Nous avons répété ici à souhait qu'il n'y avait qu'un seul mandat pour la MONUSCO. Maintenant, les règles d'engagement même qui concernent ce mandat-là ont été aussi renforcées et concernent toute la force. Donc, par conséquent, les éléments de la brigade d'intervention ne sont pas différents des autres brigades de la force de la MONUSCO qui ont tous un rôle essentiel qui est la protection des populations civiles. Et c'est ceci qu'il faudra considérer. Donc, il n'y a aucun problème, c'est des militaires de la FUB qui sont venus, qui sont en train de se familiariser avec l'environnement sécuritaire au nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma et autour de Goma. C'est un seul mandat, c'est une seule force et dans cette force-là, il y a une brigade, une unité qui a une mission spécifique qui est celle de renforcer la paix, qui est celle de traquer et de neutraliser les groupes armés.
Selon le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, la brigade d'intervention devrait être pleinement opérationnelle d'ici la mi-juillet. Dotée d'un mandat offensif, elle a pour mission de combattre et de désarmer les groupes rebelles dans l'est de la RDC, dont les FDLR et les M23.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous vous l'avons annoncé, la Société nationale de chemins de fer du Congo a reçu 9 nouvelles locomotives, une dotation dans le cadre du projet de transport multimodal PTM financé par la Banque mondiale. Honoré Misenga Kalala reçoit Eustache Wairo, c'est le directeur des opérations à la Banque mondiale, bureau de la RDC. Ensemble, ils décortiquent les termes de ce projet et cela dans la rubrique décryptage que je vous propose de suivre.
Eustache Wairo, bonjour.
Bonjour.
Le plan de redressement de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, fait partie du projet de transport multimodal, PTM en sigle, D'abord, en quelques mots, en quoi consiste le projet PETEM?
Vous savez que la SNCC est une entreprise très importante pour le désenclavement et le développement économique de 7 provinces de la RDC. Il s'agit essentiellement des Kasaï, du Maniema, une partie de la province orientale et du Katanga. Et donc ces provinces vivent parce qu'elles sont reliées par la SNCC. Cette entreprise qui était florissante par le passé est arrivée presque dans une situation de coma, à savoir que pas de matériel roulant, et des chemins de fer, des rails qui étaient en mauvais état. Il fallait donc aider cette compagnie, qui est une compagnie très cruciale pour le pays, à se relever afin d'offrir des possibilités de transport des minéraux, de transport des produits pour les populations qui habitent ces provinces.
Donc c'est dans le cadre du projet PETEM?
Oui, c'est le cadre du projet de transport multimodal qu'on appelle le PETEM, qui est un projet de 255 millions de dollars, dont une composante à 218 millions de dollars pour la SNCC. Mais nous ne travaillons pas que sur la SNCC, nous travaillons également avec la régie des voies aériennes, nous travaillons avec l'ex-ONATRA, avec la régie des voies fluviales, et puis la congolaise des voies maritimes qui s'occupe du dragage du bief entre la mer et le port de Matadi.
L'objectif global, c'est quoi l'objectif global du projet PETEM?
Mais vous savez, ces grandes entreprises de transport qui s'occupe de pans très importants de l'économie congolaise sont rentrés dans des situations de délabrement économique, de délabrement opérationnel qu'il fallait remettre à niveau si on veut que la RDC puisse profiter de ces importantes opportunités. Donc il était important de donner une capacité opérationnelle, technique, financière à ces entreprises qui sont très importantes dans le développement économique de ce pays. Vous connaissez le rôle de l'ex-ONATRA. La SNCC, on en a parlé, c'est l'un des plus grands chemins de fer d'Afrique. C'est près de 3700 km de voies de chemin de fer, 800 km de voies électrifiées.
C'est pourquoi près de 90% du financement du projet PETEM seront consacrés à cette entreprise.
Oui, effectivement, il faut remettre le rail en fonctionnement. C'est important. C'est important tout simplement parce que ça permet de désenclaver ces territoires où habite une population assez importante dans ce pays. C'est également important pour le boom minier qui se présente actuellement dans le Katanga. C'est également important parce que ça désenclave une bonne partie de la RDC.
Monsieur le directeur des opérations, quels sont les axes de redressement de la SNCC dans lesquels la Banque mondiale va être impliquée?
D'abord, il fallait aider la SNCC à être mieux gérée. Donc le gouvernement a réussi à avoir un opérateur privé qui s'appelait Vecturis. Cet opérateur privé travaille au sein de la SNCC pour apporter les nouvelles technologies de gestion, les nouvelles manières de gérer une entreprise de chemin de fer. Donc, il a fallu stabiliser également le fonctionnement. Il a fallu également régler le problème des arriérés de salaire. Il fallait également régler le problème de la composition du staffing de la SNCC. La SNCC a près de 10 000 employés. Sur ces 10 000 employés, la moyenne d'âge est à peu près 56 ans. Donc il y a une grande population de ce personnel qui a dépassé l'âge de la retraite et qui est toujours au sein de la SNCC. Nous avons donc aidé à réduire l'impact des salaires sur les coûts de cette entreprise. Nous avons financé la mise en retraite de personnes qui avaient déjà dépassé l'âge de la retraite pour leur permettre de bénéficier de leur rétribution. Il s'agissait de 2267 personnes qui sont parties avec un financement de l'ordre de près de 25 millions de dollars. Cela a permis non seulement de payer les retraites de ces personnes qui avaient atteint l'âge de la retraite, réduire le coût d'opération de la SNC, essayer d'injecter du personnel plus jeune pour donner de la vivacité à cette entreprise. Ensuite, il a fallu également renforcer le parc de traction. Sans traction, il n'y a pas de chemin de fer. La SNCC avait seulement 9 locomotives. La Banque mondiale a aidé la SNCC à travers le gouvernement à acquérir 10 nouvelles locomotives. Donc, ça a monté le parc à 19. Et là, récemment, nous étions à Lubumbashi pour accueillir 9 locomotives sur 11 locomotives qui sont financées grâce au projet PTM. Mais je dois également indiquer que le gouvernement a joué un rôle capital. Le gouvernement s'est acquitté de 2 locomotives et le gouvernement est engagé à acquérir 6 nouvelles locomotives et 35 wagons voyageurs pour les populations.
Oui, mais par rapport au problème des arriérés de salaire, on dirait que le problème persiste parce qu'il y a grève.
Mais le problème persiste parce que quand la SNCC était florissante, elle avait un trafic de 3 milliards d'unités de trafic. Maintenant, la SNCC est tombée à près de 200 millions d'unités de trafic, pratiquement avec le même personnel. Il est normal qu'il y ait des problèmes de salaire. Il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de salaire. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'accroître la capacité de traction de la SNCC pour qu'elle ait davantage de trafic. Et avec ce trafic, elle pourra payer les salaires. Sans le financement du PTM, la SNCC aurait fermé la porte. Les travailleurs, nous comprenons les difficultés, mais ils auraient eu zéro salaire. Et là, ils ont peut-être un salaire sur deux, c'est encore difficile. Récemment, le Premier ministre s'est engagé à mettre une dotation de 4 millions de dollars pour régler une paie.
Pour la Banque mondiale, il faut normalement combien de locomotives pour maximiser le trafic de la SNCC?
Ce que je peux vous dire, c'est que avant que la SNCC ne se retrouve dans cette situation, elle avait à peu près 90 locomotives. Je vous ai dit qu'avant que nous intervenions, elle n'avait que 9 locomotives. Et je dois vous dire que la dernière fois que la SNCC a obtenu une nouvelle locomotive, c'était en 1977-1978. Nous avons financé l'acquisition de 11 locomotives, 9 sont arrivées, 2 vont arriver au mois de juillet. Ensuite, le gouvernement va acquérir 6 locomotives pour accompagner la SNCC et nous avons prévu dans notre plan d'accompagnement de la SNCC d'acquérir à peu près 28 nouvelles locomotives qui devraient arriver d'ici 15 mois et permettre à la SNCC d'avoir un volume de trafic qui lui permet de prendre en compte ses propres engagements.
Monsieur Estache Wayoro, vous avez peut-être un dernier mot par rapport au projet PTM, par rapport à la situation particulière de la SNCC.
Mais disons que le PTM, ce n'est pas seulement la SNCC, comme je l'ai dit, le transport ici en RDC est multimodal, d'où le nom du projet. Vous avez le chemin de fer, vous avez la rivière, le fleuve, vous avez l'avion, vous avez le chemin de fer Matadi à Kinshasa, vous avez l'Onatra. Donc nous travaillons sur tous ces volets-là pour permettre à la RDC de tirer parti non seulement de la grande étendue de son territoire, mais également de ce que la nature lui a offert comme la multimodalité, à savoir des rivières sur lesquelles on peut circuler. Et également, il y a le transport aérien. Nous finançons les équipements de sécurité aérienne sur les différents aéroports, à savoir Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Et nous sommes également en train d'accompagner le gouvernement pour faire en sorte que ces entreprises, comme je vous l'ai dit, soient des entreprises opérationnelles. Il ne s'agit pas seulement d'acheter du matériel, mais il faut que le système de gestion de ces entreprises-là soit à niveau. Et nous sommes en train de voir au niveau de l'ex-ONATRA comment organiser la répartition des fonctions pour que cette structure soit la plus efficace possible.
Monsieur Stasio Ayo, merci.
Nous commençons cette page de bref par une nouvelle triste, le décès lundi 3 juin dernier de la journaliste Adia Chipoukou de l'agence France Presse et ancienne journaliste de Radio Capi. La MONUSCO s'est associée à la douleur en présentant ses condoléances à la famille biologique ainsi qu'à la famille des médias. 49 personnes rapatriées mardi dernier vers le Rwanda. La Commission nationale pour les réfugiés CNR, branche du Sud-Kivu, dit avoir collaboré avec le HCR pour procéder à cette opération. Ces réfugiés provenaient des territoires de Calais et de Sizi. Ils sont passés par le poste frontalier de Ruzizi Ier à Bukavu. Dans le domaine de la santé, plus de 27 000 cas de paludisme, dont 55 décès enregistrés entre le 20 et le 26 mai 2013, dans 77 zones de santé sur les 83 que compte la province orientale. Information livrée par l'OMS, la zone de santé la plus touchée est celle d'Issiro, avec 1383 cas, mais sans décès. Et puis, depuis samedi 1er juin 2013, le nouveau commandant de la force de la mission onusienne en RDC est arrivé dans le pays. Le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos Cruz, de nationalité brésilienne, remplace le lieutenant-général Chander Prakash de l'Inde.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'environnement, nous en parlons dans le cadre de la journée mondiale intervenue le mercredi 5 juin dernier sur le thème « Manger, penser, préserver ». Selon les estimations de l'ONU, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année alors que 870 millions de personnes restent sous-alimentées. Ce gaspillage a en outre des conséquences graves pour l'environnement. Jean-Pierre et Lali Ikoko s'entretiennent avec Idesbald Chinamula, point focal changement climatique au PNUD sur ce paradoxe suivant.
Monsieur Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
La journée mondiale de l'environnement a été célébrée mercredi 5 juin dernier sur le thème « Penser, manger, préserver ». Quel est le message qui a été véhiculé?
Effectivement, cette année, le message, c'est en fait une campagne de sensibilisation à l'endroit des consommateurs, des producteurs, à l'endroit des communautés sur comment réduire le gaspillage alimentaire, comment économiser de l'argent, comment réduire l'impact environnemental de la production alimentaire et conduire ainsi les processus de production à devenir plus efficaces.
Justement, selon les estimations de l'ONU, plus d'un milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, pendant que 880 millions de personnes sont sous-alimentées et cela a un impact sur l'environnement. Comment expliquer ce paradoxe entre la surproduction alimentaire et l'existence de millions d'affamés?
Effectivement, c'est un paradoxe très très frappant. Parce que c'est lié à un problème de système. Il y a la nourriture ailleurs en abondance et puis il y a la disette de l'autre côté. Pourtant, les zones comme les nôtres, justement, les pays comme la RDC, qui connaissent justement un problème de disette, n'en est pas le cas en réalité. La RDC devrait produire suffisamment avec le nombre d'hectares que nous avons en terre arable et la RDC devait produire suffisamment à manger. Mais le problème, c'est un problème de système.
Problème de système, c'est-à-dire quoi?
Ça veut dire que la production agricole dépend des infrastructures. Il faut encadrer les paysans, il faut évacuer la production, il faut la faire. La zone de production et la zone de consommation, ce sont des zones séparées. Donc, il y a la demande qui est de l'autre côté et l'offre. L'offre et la demande n'arrivent pas à se rencontrer parce que la production n'arrive pas chez les destinateurs. Il y a un problème des routes, il y a un problème des infrastructures de stockage, il y a un problème des infrastructures commercialisées. Ce n'est pas seulement les routes, mais il y a également les problèmes des transports. Ce qui est favorisé aujourd'hui, c'est la consommation des importations. Facilement, on arrive à accéder à des produits qui viennent très loin. Par contre, les produits locaux ne sont pas accessibles et ne sont pas livrés à la
population. C'est aussi un paradoxe. Comment, par exemple, le PNUD et aussi les programmes des Nations Unies pour l'environnement peuvent-ils y remédier? En d'autres termes, comment accompagner le gouvernement pour éliminer ces paradoxes en quelque sorte?
Effectivement, la réflexion qu'on est en train de mener en ce moment, c'est comment aider à ce que les gens accèdent, profitent de la nourriture, mangent à leur faim. Mmh. Aujourd'hui, tous les programmes qu'on est en train de développer, c'est dans ce sens. Nous venons dans les cycles qui viennent de se passer pour le PNUD, d'aider les pays à développer sa stratégie nationale RED, qui va aider le pays à tirer profit des ressources naturelles. Ensuite, il y a aujourd'hui un problème que nous essayons de maintenir dans le programme que nous appelons le programme intégré. Où nous avons à la fois la question de l'agriculture qui est conciliée avec la question du développement des infrastructures, la question de la gouvernance et l'approche qu'on peut préconiser aujourd'hui, c'est l'approche filière. C'est-à-dire, nous sortons de la production, il faut qu'il y ait des moyens de transformation, il faut qu'il y ait l'énergie, il faut qu'il y ait des moyens de transport, il faut effectivement que ça arrive au marché et que ça soit accessible.
Une des remarques qu'on fait souvent aux agences des Nations Unies et même des agences de développement, de donner beaucoup de théories et que l'action ne vient pas suffisamment. Vous avez parlé bien sûr de beaucoup de stratégies là-bas, mais qu'est-ce que le PNUD fait concrètement pour arriver à cette autosuffisance alimentaire? En RDC, bien entendu.
En RDC, l'autosuffisance alimentaire, c'est le leadership du gouvernement, bien entendu. Le PNUD est là pour l'accompagner, autant que les autres agences du système des Nations Unies, c'est pour l'accompagner. Nous aidons en même temps, nous accompagnons le gouvernement à adopter des bonnes politiques qui puissent permettre à ce qu'il y ait un accès, par exemple, à la terre pour tous. Nous accompagnons le gouvernement à cibler des zones prioritaires où on peut produire davantage et accompagner à mettre en place des programmes intégrés de la production.
Vous pouvez citer un exemple concret sur le territoire national?
Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le forum pour le développement du Maniema. Dans le cadre du forum pour le développement du Maniema, on dit pour relancer l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut? Après lancer l'agriculture demande qu'il y ait des infrastructures de transport, qu'il y ait à la fois les moyens de transport, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait également des lois qui puissent attirer les investisseurs. Donc ça c'est un package, en fait un ensemble de mesures que nous sommes en train d'élaborer, de travailler avec la partie nationale pour promouvoir un paquet et ensuite mettre ensemble ces mesures. Donc ça doit être des programmes tout à fait intégrés. Et le cas de Maniema c'est vraiment un cas concret sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui, qui est une province enclavée, qui a un grand potentiel en agriculture, mais effectivement qui n'arrive pas à évacuer, qui n'arrive pas à faire jouir la population de ses potentiels dans la province.
Une question tout à fait d'ordre général. La journée de l'environnement a été instituée en 1972 pour marquer la conférence de Stockholm, vous vous souvenez, sur l'environnement humain. Près de 40 années après, le monde a-t-il connu des avancées dans le domaine de l'environnement ou pas? Je fais ici allusion à la préservation de la forêt, à la couche d'ozone, ou même à la désertification au développement durable.
Oui, là encore, on a beaucoup parlé, on n'est pas beaucoup avancé. Sur le plan mondial, il y a eu beaucoup de conférences, il y a une sensibilisation assez forte. Aujourd'hui, c'est une question qui est assez maintenant cruciale, la problématique changement climatique environnement. Mais nous avons un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décisions courageuses qui sont prises jusqu'à présent. Depuis pratiquement 40 ans, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de discuter autour des objectifs d'atténuation. L'année passée à Doha, on a évalué, on repousse à nouveau en 2020 l'objectif d'adopter les nouveaux protocole et de réduire les émissions à hauteur de 5%.
On ne fait que reculer, si vous voulez.
En réalité, c'est ça. Il y a beaucoup d'hésitation pour la prise de décision au niveau des autorités. Il y a beaucoup d'engagement. Toutes les études sont en train de confirmer. Nous avons la certitude avec les groupes intergouvernementaux d'experts sur l'environnement qui montrent que c'est l'homme, ce sont les activités humaines qui sont à la base des changements climatiques. Mais le problème, c'est de prendre des décisions. Et là-dessus, tous les gouvernements sont en train d'hésiter. Les Nations Unies continuent, bien sûr, à faire pression, continuent, bien sûr, à mener les plaidoyers. La prochaine échéance, aujourd'hui, après le protocole de Kyoto jusqu'en 2020. Donc, on espère qu'après 2020, d'ici à 2020, qu'on va avoir des décisions contraignantes qui vont engager tous les pays.
Est-ce que vous croyez qu'avec ces pessimismes qui gagnent du terrain, que la situation interne en République démocratique du Congo peut évoluer?
Je peux considérer qu'il y a évolution dans le sens où, au moins sur le plan plaidoyer, sur le plan des connaissances, il y a suffisamment de recul aujourd'hui. Le problème, c'est de donner du contenu et de passer à l'acte. Et nous sommes en train de penser qu'aujourd'hui, les plaidoyers, la masse critique des connaissances qu'il y a, et je crois que d'ici à 2020, on va aboutir à un accord consensuel qui contraint tous les pays à donner une nouvelle ligne de conduite dans leurs activités de production afin d'atteindre les objectifs des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, vous êtes optimiste?
Je reste optimiste.
Idels Bal Chinamoula, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
La nouvelle de province de ce dimanche nous conduit en province de l'Équateur. Malgré les potentialités de la province, la situation nutritionnelle reste encore très préoccupante dans la plupart des zones de santé. Constat fait la semaine dernière au siège provincial de l'UNICEF. C'était au cours d'une réunion où se sont retrouvés des ONG œuvrant dans le secteur de la nutrition et quelques agences du système des Nations Unies partenaires, comme nous l'explique Ghislaine Nentobo.
Les différentes évaluations faites par les partenaires de l'UNICEF, parmi lesquels le Programme alimentaire mondial PAM, le Pronanut et Médecins d'Afrique dans quelques zones de santé de l'Équateur, montrent que la situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des zones de santé. Le taux de la malnutrition aiguë globale reste supérieur à 10%. Dans la zone de santé du Zongo, par exemple, ce taux est de 11%, à Lipengé 20,5%, dans la zone de santé de Yakoma 20,6%, même taux à Mobimbongo et 10% dans la zone de santé des Bili. La situation est également alarmante à Bulumba où l'on signale plusieurs cas de malnutrition avec des décès. C'est une situation qui s'est accentuée depuis 2012. Les ONG locales qui travaillent dans le secteur de la nutrition dans ces territoires ne cessent de s'en plaindre parce que jusque-là, aucune intervention. Il se pose cependant un problème de prise en charge de ces enfants malnutris malgré l'assistance jugée insuffisante des partenaires tels que l'UNICEF, l'ONG internationale ADRA et autres. Selon le coordonnateur provincial du Programme national de nutrition Pronanut, les ONG locales doivent amplifier les activités de sensibilisation de la population.
Pour maîtriser la malnutrition, il faut une forte sensibilisation. Et qui dit la sensibilisation, il faut un peu de moyens pour les déplacements, acheter des piles, acheter des mégaphones, ceci, cela. Il faut une forte sensibilisation. Et que aussi les politiques puissent prendre ces choses-là. C'est-à-dire nos députés, les membres du gouvernement provincial puissent prendre ça. Dit que notre population est en train de souffrir, il faut mettre les moyens pour leur sensibilisation sur le principe nutritionnel.
Pour sa part, Joachim Moubia, la chargée du groupe nutrition de l'UNICEF Mbandaka, fait savoir qu'au nord Ubangi, les enfants malnutris identifiés sont pris en charge dans les unités nutritionnelles. Dans le sud Ubangi, plus précisément à Zongo et à Libengé, dit-il, aucune intervention jusque-là. Mais l'UNICEF Équateur mène des plaidoyers au niveau de Kinshasa en vue d'obtenir une assistance pour ces malnutris. Un autre plaidoyer pour une enquête nutritionnelle rapide pouvant aboutir à une éventuelle intervention à Bulumba dans les prochains jours est aussi en cours, a-t-il ajouté. Mbandaka, Ghislaine Ntobo.
Merci Ghislaine. À présent, découvrons un autre fonctionnaire des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Oui, je m'appelle Alphonse Toko. Je suis marié, père de 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Tous adultes et travaillent. Je suis médecin de formation. Ma spécialité est la santé publique. Je travaille à l'UNICEF depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé énormément dans les urgences, dans tout le Congo, depuis le premier pillage jusqu'à, je dirais, le génocide rwandais de triste mémoire. J'ai géré des camps de réfugiés rwandais et des programmes de santé, nutrition des enfants non accompagnés. J'ai été en charge du bureau de l'UNICEF à Goma, à Kisangani, dans le Bas-Congo, à Boma et à Lubumbashi, avant d'aller au Cameroun comme chef de la section santé et nutrition pendant 2 ans. Et les urgences m'ont rattrapé avec la crise ivoirienne. En 2003, j'ai été rappelé par notre bureau régional pour apporter mon expérience à l'équipe de l'UNICEF Côte d'Ivoire à Abidjan, où j'ai été en charge de la création du bureau d'urgence en pleine zone rebelle à Boaké, où j'ai travaillé pendant 6 ans à remettre en place, si vous voulez, les systèmes de santé qui étaient complètement perturbés par la guerre. Vers la fin de ma carrière, je préférais revenir en RDC, où en réalité je suis déjà retraité depuis août 2012. Je joue encore les prolongations pour partager mon expérience avec nos jeunes qui viennent renforcer l'équipe. Je continuerai à jouer ces prolongations tant que Dieu me donnera la force. C'est une passion pour moi de travailler dans le domaine de la santé publique, et surtout dans des pays comme la RDC où il y a des défis énormes, des épidémies. Et justement, je venais de parler du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité. Je voudrais contribuer à éliminer toutes ces épidémies dans ces pays. Et ça, c'est à travers la formation, l'encadrement des jeunes, à mieux gérer les structures sanitaires et les programmes de santé. Ça, c'est ma passion. Avant d'être aux Nations Unies, j'ai été médecin généraliste à Kwilongongo de 77 à 84. J'ai créé la première zone de santé de Kwilongongo. J'ai été médecin d'entreprise à la compagnie sucrière. C'est là où j'ai découvert la passion de la santé publique avant de rentrer à l'école de santé publique de Kinshasa, où j'ai fait ma maîtrise en santé publique. Et j'ai commencé la recherche en cette matière avant d'intégrer les Nations Unies, l'UNICEF. Bon, mes temps libres, je le passe beaucoup plus à la lecture. Et j'aime la télévision. Et la musique. J'aime bien la rumba, des Lucky Jazz. Et avec les jeunes d'aujourd'hui, Kofi et Fally Ipupa. Ah oui, je suis de nationalité angolaise, mais comme tous les Angolais de ma génération et avant ma génération, nous avons émigré, mon père a émigré en RDC où il a travaillé et où moi j'ai fait l'essentiel de mes études et où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Même si j'ai été ailleurs en Afrique, mais l'essentiel de ma carrière, je l'ai consacré à la RDC. Et mes projets d'avenir, je les consacre également à la RDC en tant qu'Angolais. On n'échappe pas à cela quand on est au Congo. Mon épouse est congolaise. Mes enfants ont cet avantage de décider d'être Angolais ou Congolais.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le secrétaire général des Nations Unies a demandé au gouvernement de Kinshasa de retourner à Kampala pour les pourparlers de paix avec le M23. Est-ce que la brigade d'intervention va engager des combats contre le M23 pendant que les négociations sont en cours? Cette question appartient à Roger Bokungu. Il est étudiant à l'université de Kinshasa. Si vous nous écoutez, Roger, voici la réponse de Penanini Touré, porte-parole intérimaire de la MONUSCO.
Roger, merci de votre question. Si vous nous suivez en ce moment, sachez qu'il est nécessaire que ces pourparlers se poursuivent à Kampala. Il faut que les gens discutent parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre alternative. Pour arriver à la paix, il faut que les gens s'asseyent et discutent d'abord. Et avec cet accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et le développement ou la coopération, nous avons une approche beaucoup plus globale. Une approche qui prend en compte donc tous ces aspects et qui donne beaucoup plus de chances à la paix. C'est pour ça que cet accord a été qualifié par Madame Robinson d'accord d'espoir. Donc il est souhaitable que les parties discutent autour d'une même table pour arriver à trouver une solution. Cela prendra peut-être du temps, mais encore une fois, il n'y a pas d'alternative à cela. La brigade d'intervention qui se met en place en ce moment n'est qu'une force de stabilisation, si vous voulez. Elle est là juste pour neutraliser ces éléments qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. mais la brigade d'intervention à elle-même ne résoudra pas le problème. Une fois qu'elle aura fait son travail, les parties en conflit devront toujours s'asseoir pour discuter et pour arriver véritablement à une solution de paix. Les négociations sont incontournables. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Ce dimanche 9 juin, c'est la journée internationale des peuples autochtones. Notre magazine se propose de couvrir en début de semaine les activités des agences des Nations Unies en rapport avec cette journée. Voilà le seul rendez-vous à noter dans vos carnets. Fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco sous la supervision de Nicole Ngaka. Honoré Missenga était au reportage, Jean-Claude Fiala à la mise en onde, Mireille Bukasa Mukendi vous l'a présenté. Merci à vous de l'avoir suivi. Et pour vous qui nous avez pris en cours, sachez que vous pouvez la réécouter ce dimanche même à 19h03, heure de Kinshasa, ou encore retrouver l'émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Vous avez des remarques, des suggestions ou même des observations, faites-les parvenir en écrivant à notre adresse email magun@un.org ou appelez au 082 307 66 30. Excellente journée dominicale.